Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drag bruxellois, ou presque. Deux semaines après la belle interview de Laura J. Nethercott sur le métier de photographe de show drag, je continue mon tour de l'ombre en recevant quatre petites mains, pour reprendre une expression assez en vogue dans l'événementiel et que j'aime moins chaque fois que je l'entends. Parlons plutôt de bénévoles, les personnes qui vous accueillent à l'entrée, au bar ou en salle, qui gèrent les loges, le confort des performeuses et même parfois la régie, celles qu'on remercie souvent d'entrée magistrale. Et merci aux bénévoles, sans les nommer parce que les MC n'ont pas pris le temps de noter ou de retenir les noms de chacun des leux. Et pourtant, sans eux, rien ne se ferait. J'ai tenté d'ailleurs d'imaginer ce que serait une soirée de performance sans bénévoles. Pour moi, ça ressemblerait un peu à ça. Vous arrivez à l'heure dite devant le lieu du show que vous venez voir. Vous poussez la porte, pas trop sûr d'où vous arrivez. Vous tombez sur une performeuse en train de se maquiller, qui s'interrompt en vous voyant arriver, un œil à moitié peint, l'autre encore blanc-gris sur fond gras. « Vous venez pour le show ?»« Oui, c'est prix libre, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici », dit-elle en dégageant une caisse en plastique dessous ses palettes dans un cliquettement de pinceau. Et elle vous remercie et vous propose d'aller à côté avant de reprendre son maquillage. À côté, c'est un espace bar où une drag queen en pull vous propose un verre. Désolée pour la tenue, il faut bien garder le reveal pour la scène. Vous prendrez quoi ? Vous commandez. Elle met un certain temps à vous servir. Avec ses faux ongles, forcément, ça va moins vite. Vous allez faire un tour aux toilettes, pas de PQ. Heureusement que vous avez pris des mouchoirs avec vous. Le temps passe, le public arrive. Soudain, un king apparaît, vous propose d'aller vous mettre en place. Le spectacle va commencer. Vous entendez les portes se fermer à clé pour être sûr que personne ne rentre pendant, tant pis pour l'évacuation en cas d'incendie ou d'urgence. Puis le show commence. L'AE Drag Monarque de l'entrée est à la régie, où on la présente de là. Après deux performances, on l'AE relaye et Yael va faire son numéro sur scène. Loin d'être idéal pour donner le meilleur de soi. Alors à la pause, vous prenez votre courage à deux mains et vous allez proposer d'aider si besoin. Non, non, pas de paiement, ça vous fait plaisir. Félicitations, vous êtes dans le système. Et pour parler de ce système, pour parler de ce sujet, j'ai invité deux personnes qui ont fait ce pas aussi il y a un petit moment. D'un côté Juliette et de l'autre Martin. Avec elle, je ne sais pas trop de quoi on a parlé parce qu'à nouveau je fais cette intro au moment de l'enregistrement. Comment ça va Juliette ?
Ça va très bien.
Et comment ça va Martin ?
Ça va très bien, merci beaucoup.
Ouais. Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans cette espèce de scénario catastrophe que j'ai esquissé ? Est-ce que vous voyez à quel moment vous intervenez
Bien sûr.
Pour empêcher qu'il arrive. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter votre vie de tous les jours ? Ça ressemble à quoi, Juliette ?
Moi, je suis journaliste de formation. Là, je suis en stage dans une radio. Et voilà.
D'accord. Et Martin, de ton côté ?
De mon côté, j'essaye de mettre un maximum d'énergie justement dans le bénévolat, dans la régie pour les shows, en particulier les shows drag. Je reviens de beaucoup de petits boulots différents qui m'ont ramené à mon premier amour qui est le spectacle.
D'accord, merci. Et pour commencer, être bénévole en show drag, comment ça se passe ?
Ça dépend des shows. On a plus organisé que d'autres, mais généralement, il y a une petite story Instagram qui circule en demandant « Attention, besoin bénévole, show qui arrive !» Et si je suis dispo, moi je clique. Et, okay. J'aime bien faire les entrées. Je me suis un peu spécialisée dans l'accueil à l'entrée, donc voilà, je ne fais quasi que ça.
D'accord. Ok, et de ton côté, Martin, c'est aussi par Story Insta que tu...
Ça a commencé par ça, oui. Je me suis mis à disposition de qui voulait avoir besoin de mes services, en tout cas en tant que régisseur dans un premier temps. Mm-hmm. Et puis j'ai eu pas mal de réponses.
Donc toi, t'as carrément fait une espèce de candidature spontanée par Story Insta.
Exactement. Après avoir commencé à fréquenter les shows drag, je me suis dit, je veux revenir au spectacle. Il y a quelque chose que je faisais déjà il y a un long moment. Et voilà, je me suis présenté en me disant « Si vous avez besoin de moi, je suis là, okay. N'hésitez pas. »
Et donc toi, tu as de l'expérience en régie ?
Alors, je travaillais dans le spectacle pendant ma vingtaine, j'ai aujourd'hui 33 ans.
Et quand tu dis « travailler », pardon, je me permets de t'interrompre, mais quand tu dis « travailler dans le spectacle », c'était au niveau technique ou sur scène ou...
On va dire que c'était dans un... oui, c'était sur scène. Je travaillais beaucoup dans les grandes salles comme Forêt Nationale ou le Sport Palace ou l'Ancienne Belgique, mais aussi en festival comme Werchter. Mais c'était plus de la main d'œuvre, on va dire, que vraiment de la régie pure. Donc, c'était principalement décharger des camions, installer les câbles, les lumières, le son, etc. Okay. Et il y avait une personne de référence qui s'occupait de se mettre derrière la console. C'est la place à laquelle j'aurais toujours voulu être. Et voilà, donc j'avais déjà un background.
Ben ouais, donc tu as quand même en fait pas mal d'expérience et de compétences dans gérer une régie, gérer des câbles, gérer des branchements, gérer ouais. tout le matériel technique dont on a besoin pour mettre au point un système son et un système lumière pour qu'un show puisse,
voilà,
puisse se faire.
Voilà, en tout cas, j'avais les bases là-dedans et depuis que j'ai commencé à faire la régie pour les shows drag, je pense que j'ai pu un peu me spécialiser et j'aimerais encore me spécialiser dans le futur.
Trop bien. Et Juliette, de ton côté, tu as de l'expérience aussi dans le monde du spectacle ou du théâtre vivant ou du...
Absolument pas. Mais un jour, je suis rentrée dans un cabaret et je n'ai jamais voulu ressortir. Et puis, je suis un peu tombée dedans par hasard, où j'avais de plus en plus d'amis dans mon entourage qui commençaient le drag et du coup, qui avaient besoin de bénévoles parce qu'elles organisaient leur propre show. Et bah, en fait, moi, ça a commencé comme ça. J'avais envie d'aider mes amis et mon entourage. Et de, voilà. J'ai aussi, quand j'ai pas la capacité de donner financièrement, je donne de mon temps. J'ai déjà fait du bénévolat avec des sans-abri, par exemple, ou bah, même chez Mathieu Gure, quoi. Si je ne peux pas donner de l'argent, je donne de mon temps et mon énergie. Et puis, j'y ai pris goût. Et donc, voilà, j'aime bien.
Ok, bon, on aura le temps de revenir plus en longueur sur votre parcours et vos motivations. Mais donc, pour revenir à comment se passe un recrutement ou comment est-ce que ça se passe l'organisation du point de vue des bénévoles. Donc, dans le meilleur des cas, quelques semaines avant, il y a une demande qui circule où on vous contacte directement parfois. En disant voilà, il y a un show qui se fait à tel endroit à tel moment, est-ce que vous êtes dispo? Et si vous êtes dispo, qu'est-ce qui se passe après?
Enfin, généralement, il y a une liste des rôles à pourvoir, si mm-hmm. je peux le dire comme ça, et on peut choisir ce qui nous convient le mieux ou pas.
Ok, donc en amont, effectivement, on se répartit les rôles. S'il y a des questions, etc., on y répond. Et puis le jour J, on arrive, il y a, j'imagine, un briefing bénévole sur place.
Oui.
Et puis, on se répartit aux différentes tâches. Et puis, c'est parti, quoi.
C'est ça.
Absolument.
On parlait de répartition. Moi, de ce que j'ai noté, dans cette espèce de grande catégorie qu'on nomme bénévole et qui donc... Alors, évidemment, c'est très poreux parce que, par définition, c'est les personnes qui ne sont pas rémunérées pour un show. Alors, est-ce que des performeuses qui sont payées au chapeau, est-ce que c'est une vraie rémunération? J'ai décidé dans le cadre de cet épisode de dire, bon, ces personnes-là reçoivent au moins un peu d'argent, on va les mettre de côté. Mais donc, moi, de ce que j'ai noté, il y a donc les entrées, tout ce qui est la caisse des entrées, les tickets ou bien les cachets à l'entrée, etc. Le bar, les angels, les stage kittens. Déjà, est-ce que j'ai oublié d'autres postes?
Bah, la régie.
La régie, qui parfois est bénévole, parfois pas. Ça, on aura l'occasion d'en reparler.
Parfois le bar.
Parfois le bar, c'est ça. Et donc, justement, quand on parle d'angels et de stage kitten, qu'est-ce que c'est des angels? Toi, tu avais parlé de care team, là, tout de suite.
Oui, ce sont un peu les personnes vers qui on se tourne en cas de problème, ou de besoin de prise en charge, quoi. Donc, ces personnes-là reçoivent un petit brief en plus, généralement, pour apprendre à accueillir des personnes qui sont victimes de violences ou qui ont besoin de care. Et voilà. Enfin, moi, j'en sais pas beaucoup plus parce que c'est pas un rôle que j'aime faire, c'est pas un rôle que j'ai envie de prendre en charge, donc je l'évite. Et d'ailleurs, généralement, je dis quand on répartit les rôles, moi je ne veux pas faire ça, tout le reste ok, mais ça non. Mm-hmm. Donc voilà, je ne sais pas trop.
Et pourquoi? Est-ce que tu sais dire pourquoi? Est-ce que c'est un rôle qui te...
C'est personnel. En fait, moi je n'aime pas gérer cette violence. Je sais le faire en cas d'urgence. Par exemple, quelqu'un se fait agresser dans le tram, je vais réagir, mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. Mmh. Ça, c'est trop un coup sur mon mental, ça me coûte trop en émotion et je préfère m'en distancier, quoi.
Ok, super. Et donc de ton côté, toi tu nous as dit que c'était principalement de la régie que tu faisais, ça t'est quand même déjà arrivé de faire d'autres, d'être à d'autres postes?
Oui, parce que je suis aussi un petit peu dans l'organisation, j'organise entre autres le bal des monstres avec Gigo et Atlas, et donc effectivement il faut prendre pas mal de choses en charge. On n'est pas on n'est pas tout le temps nous-mêmes en tant qu'organisateur. Organisatrice rémunérée.
Ah oui. Alors ça, on a un épisode du hors-série prévu sur l'organisation de show avec les gens de Crash Test. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'on va mettre sur le côté, mais c'est un sujet dont on va parler très longuement avec, avec Chroma et Mio lors de leur épisode. Mais c'est bien de le souligner qu'en fait, si on parle de bénévolat, de manière générale, l'organisation de show, tout comme en fait la répétition de numéros pour les dragues et la création de show pour les dragues, n'est souvent pas du tout rémunérée. Mais,
absolument.
Mais ça, dans le cadre de cet épisode, on va faire une petite catégorie mentale et hop, jeter ça par la fenêtre.
mais oui, en tant que régisseur, je veux dire, il est complètement possible que je me retrouve avec une salle où tout est déjà installé, où j'ai très peu de choses à faire. Donc à ce moment-là, moi-même, je vais me rendre utile, je vais voir à gauche, à droite où je peux aller.
Installer
des chaises, exactement. C'est ce qu'on a fait la dernière fois ensemble. je peux être un peu polyvalent, dépendant de la situation du matériel, en tout cas, qu'il y a sur place.
Et c'est beaucoup ça aussi. Il y a des rôles qui sont attribués, mais dans l'organisation d'un event, d'un show comme tout event, on court à gauche, à droite et on fait ce qu'il y a à faire. On a parlé de petites mains tout à l'heure. En fait, c'est exactement ça. Tu as ton rôle et tu es aussi la petite main.
Oui, tu es aussi là sur place s'il faut.
Pour faire
tout à coup,
ce qu'il y a à faire.
Attacher une banderole. Oui. Bien,
quelqu'un renverse un verre, premier qui trouve la serpillière, c'est toi. c'est comme ça que ça se passe.
Oui, juste pour terminer le tour des rôles, liés un petit peu à la régie, donc les stage kitten, pour moi est un peu une spécificité. En tout cas, moi je l'ai découvert via les drag shows, je ne savais pas que ça existait ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler, Martin, de ce que c'est les stage kitten?
Absolument, ce sont des personnes très importantes qui permettent de faire la transition entre chaque numéro, que ce soit en retirant, installant du matériel sur scène, en fonction des besoins de la performeuse.
Donc ce que ce soit enlever les vêtements qui ont été retirés pour une paire.
Exactement,
passer balayer les paillettes.
Laver les paillettes, le faux sang, tout ce qui peut traîner sur scène pour que...
En faisant des shows avec Atlas, t'as vu beaucoup de faux sang.
Oui, énormément. Sa réputation le précède. Oui. Mais oui, voilà, donc vraiment un rôle indispensable au bon déroulement de la soirée et en particulier du show. Donc on va dire qu'il y a moins de travail à faire en amont, même si la préparation écrite donc de comment va se dérouler le show peut prendre un peu de temps. C'est un poste qui demande beaucoup, qui prend beaucoup d'espace mental, parce qu'il faut savoir exactement ce qui va se passer. Il faut toujours être un cran en avance pour que tout se passe bien, en fait.
Oui, et je pense que la plupart du temps, les kitons sont là aux répétitions.
Oui.
Mm-hmm.
Donc c'est aussi un taf en plus, quoi.
Ouais.
Moi, quand je fais les entrées, je suis pas là aux répètes. J'en ai pas besoin.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a même certains shows où les kittens ont le numéro des kittens plus ou moins en ouverture de show. Il y en a souvent où les kittens sont costumés, voire maquillés. Est-ce que cette espèce de double statut comme ça du kitten par rapport aux autres bénévoles, comment vous le vivez?
Bonne question. Je crois que je le vis.
Mais c'est par exemple, est-ce qu'on vous a déjà demandé en tant que bénévole aux entrées ou à la régie de vous maquiller ou de vous costumer d'une certaine manière ou quoi, pour un show?
Moi non. Ça a toujours été. Parfois on nous dit quand c'est un show d'Halloween, généralement on nous dit venez costumer si vous avez envie. Il n'y a jamais d'injonction. Je crois que je serais pas très très chaud de faire bénévole s'il y a des trucs à faire en plus. Oui, c'est un peu, tu viens comme tu veux, quoi. Mais généralement, les kittens sont des dragues elles-mêmes.
D'accord. Et du coup, ça te paraît plus légitime de leur proposer de faire un numéro sur scène ou quoi? Parce qu'il pourrait y avoir le numéro des bénévoles. Bon, après, ça demanderait...
Ça pourrait.
Éventuellement des répètes de bénévoles en amont ou quoi, mais...
Je crois que ça dépend du kitten.
Toi, par exemple, si pour un show, on disait, on propose de faire un numéro des bénévoles où tous les bénévoles montent sur scène, faire une choré ensemble ou quoi?
Alors,
est-ce que c'est un truc qui te chaufferait ou pas du tout?
Moi, je ne suis pas une personne de la scène, mais quand on a fait le bal des monstres à Halloween cette année, on a dû faire une petite chenille partout dans la salle.
Okay.
J'ai accepté de le faire. C'était vachement marrant, même si j'aime pas trop que tout le monde nous regarde comme ça. Mais...
Et c'était la chenille des bénévoles ou c'était aussi avec les performeuses, etc.?
C'était prévu dans le show qu'il y ait une petite chenille. On nous a demandé, ça vous va de faire la chenille? Et moi, je suis là, si c'est la chenille, j'accepte.
Très bien.
Et ça fait que c'était principalement les bénévoles.
Et de ton côté, Martin, si on te demandait de venir costumer ou maquiller ou de faire un numéro de la régie pendant un show, ce serait un truc OK ou...
Pour moi, ça serait OK. Je pense que, comme a dit Juliette, il y a très peu d'obligations. En fait, c'est le choix est toujours laissé. Il peut y avoir une espèce de ligne de conduite. Ça serait chouette que vous veniez en telle couleur. Mais effectivement, moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré d'obligation de devoir le faire. Toujours des propositions. Et généralement, c'est rien de très... de trop compliqué à mettre en place. Donc, ça peut être amusant dans la plupart des cas. Que ce soit un petit bonnet pour Noël ou une performance de Anna qui se mariait ou elle demandait de est-ce qu'on mette un bandeau de mariage sur nous pour une performance.
Oui, c'est ça.
Donc rien de gargantuesque à ce niveau-là.
Oui, un accessoire ou quoi.
Oui.
C'est chouette, quoi. En fait, c'est profondément... Tu passes un bon moment à être bénévole parce que, généralement, quand on est bénévole, on aime le drag. Et donc, c'est un chouette moment. Donc, c'est marrant de se prêter au jeu, quoi. C'est pas en mode « Ah, je vais devoir faire ça, il faut que je me maquille, il faut que je m'habille d'une certaine façon. » Non, on le fait parce que c'est kiffant et parce que c'est l'endroit et voilà, quoi.
Oui, ce qui m'amène à ma prochaine question, t'en as déjà un tout petit peu parlé, Juliette, mais pour vous, est-ce que c'est normal de faire ce travail bénévolement? Et est-ce que vous le faites ou est-ce que vous le feriez dans d'autres milieux que le drag ou pour d'autres occasions que du drag?
Moi, j'ai déjà fait du bénévolat plusieurs fois, souvent par petites touches et longtemps pour le sans-abrisme. Et du coup, je suis toujours dans cette optique de si je ne sais pas aider financièrement, je vais aider avec mon temps et mon énergie. Et puis souvent, c'est pour aider des amix, donc... je le fais vraiment de bon cœur, quoi. Et je ne me force pas. Enfin, c'est si j'ai le temps, si j'ai l'énergie, si je n'ai pas mes douleurs de règles, enfin, tu vois.
Ouais.
Je pense qu'en particulier dans le milieu drag, on sait que c'est un milieu qui est compliqué pour tout le monde, financièrement, pour les artistes, vraiment pour toute la scène. C'est aussi un milieu de personnes passionnées. Je pense que les personnes qui font du bénévolat savent qu'elles vont passer un bon moment parce que elles pourront assister au show, il pourrait y avoir un contact avec les artistes. Il peut y avoir cette espèce de petite contrepartie. Je pense que dans le fond, ça serait évidemment plus logique de payer tout le monde parce que tout travail mérite salaire. En parlant de la scène drag, je pense que logistiquement, c'est trop compliqué à mettre en place.
Je crois que, pour répondre vraiment texto à ta question, moi, si c'était par exemple pour un spectacle dans un théâtre où tout le monde paye sa place à 20€ et que tout le monde est rémunéré, là, je ne serais pas d'accord d'être bénévole et de faire les entrées. Mais notre communauté queer est précaire. Enfin, je pense que c'est un fait et qu'on peut le dire comme ça. Qu'il y a aussi le public qui n'est... Enfin, tant les dragues sont précaires que le public est souvent précaire aussi. Et donc, c'est un peu... C'est un peu vilain de le dire comme ça, mais c'est un peu le travail de la communauté. Pour la communauté, tu vois. Enfin, pour moi, ça fait sens que je m'implique là-dedans. Et puis, j'aime bien. Donc,
Mais d'ailleurs, à ce sujet, Martin, tu me disais en préparation de l'émission que toi, ça t'arrivait de parfois faire de la régie bénévolement, mais aussi parfois être rémunéré pour faire la régie. Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est dans des cadres différents ou est-ce que c'est des demandes du coup qui ne sont pas les mêmes et il y a peut-être une autre exigence par rapport à ton travail quand on te rémunère ou qu'est-ce qui change?
Alors, niveau exigence, moi je vais donner exactement la même quantité de travail, que ce soit rémunéré ou pas. C'est vraiment en fonction de ce que l'organisation peut débloquer en fait comme moyen, quoi. Moi, comme je te l'ai dit, c'est un milieu de passionné, je suis vraiment passionné de ça aussi, donc je retrouve beaucoup de bonheur à faire ça. J'adore la régie et j'adore le drag, donc les univers se rejoignent pour moi et je suis toujours très content. Après, pour être honnête, je pense que sur le long terme, ça sera plus compliqué. Là, c'est une période de ma vie où je peux mettre plus de temps et d'énergie là-dedans. Mais c'est sûr qu'à un moment, je vais devoir financièrement m'en sortir. Donc, je ne pense pas que ça durera des années. Tant que j'ai l'occasion de le faire, je le fais vraiment avec plaisir. Et oui, toutes les organisations n'ont pas les mêmes moyens. c'est quelque chose que je prends en considération. C'est comme ça.
Yes. Quelque chose que j'ai pu remarquer aussi, que ce soit en performant ou en étant bénévole sur des shows, c'est qu'il y a une espèce de... Enfin, il y a des vrais moments où les bénévoles papotent ensemble, fument une clope ensemble, mangent un bout ensemble, etc. Donc en fait, j'ai l'impression que ça crée une espèce de... Alors communauté, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ça crée des liens entre personnes qui sont bénévoles à des shows. Est-ce que vous, du coup, vous avez déjà ressenti ça ?
Oui.
Est-ce que c'est aussi une raison pour laquelle vous faites bénévole à des shows ? Parce que vous savez que telle ou telle personne fait aussi bénévole à ce show-là ou quoi ? Ou...
Moi, de base, non. Mais c'est arrivé que je sois bénévole, par hasard, trois fois d'affilée avec la même personne aux mêmes entrées. Et maintenant, c'est un peu le running gag de « Ah bah tiens, on va encore faire bénévole ensemble. Bah viens, on se met au même poste parce que c'est vraiment cool. » Je pense qu'elle se reconnaîtra. Mais... enfin oui, du coup, c'est chouette, quoi. Et on rencontre plein de gens aussi. Enfin, moi, j'y vais pas en mode speed dating social. Enfin, tu vois, oui. J'y vais pas pour rencontrer des gens, mais c'est vrai que c'est... Enfin, il y a toujours une chouette ambiance, quoi. Mmh.
Et est-ce que, du coup, il y a des shows où, par exemple, vous avez déjà été faire du bénévolat et ça s'est mal passé, et du coup, vous n'allez plus faire de bénévolat à ces shows ? Est-ce que vous avez quand même une espèce de demande que ça se passe bien, quoi, pour y retourner ?
Moi, jamais.
Ou est-ce que globalement, ça se passe toujours bien ?
Moi, jamais. Après, j'ai toujours fait du bénévolat pour des personnes que je connaissais. Donc, je savais que ce serait bien, enfin, que ce serait safe, en tout cas. Et donc, voilà. Je pense pas que je ferais... Je sais pas si je pourrais faire bénévole pour des gens complètement inconnus. Je n'ai pas la réponse.
Non, mais c'est très intéressant de justement se poser la question.
Oui, mais c'est un peu pareil pour moi. Je n'ai pas vraiment une mauvaise expérience. Il y a des situations un peu plus compliquées en tant que régisseur où des salles sont moins adaptées. Donc ça rend le travail un peu plus stressant, plus compliqué. On peut terminer la journée sur les rotules et se rendre compte vraiment le lendemain qu'en fait on a vraiment passé une bonne soirée, mais que sur le moment même c'était compliqué de s'en rendre compte. Mais ça fait partie de la vie du spectacle, en tout cas pour moi. Je le prends comme ça vient. Voilà. En tout cas, je n'ai rencontré personne avec qui je voulais plus travailler, heureusement.
Mmh. Ouais. Et parfois d'ailleurs, quand l'organisation était un peu bancale, généralement, les organisatrices viennent dès le même en mode merci beaucoup pour votre travail. On est vraiment content, vous nous avez vraiment aidé. Et désolé pour ça, on fera mieux la prochaine fois, on en est consciente. Et souvent, elles demandent du feedback pour s'améliorer, en fait. Et bah, du coup, même quand il y a des petits trucs qui vont pas, moi, ça ne m'est jamais arrivé qu'il y ait un gros truc mauvais. Tu sens qu'il y a une volonté de faire bien et de faire mieux et que tout le monde soit bien. Et donc, c'est vraiment chill, quoi. Oui.
Mm-hmm. C'est plutôt bienveillant à Bruxelles, à ce niveau-là, je dois dire.
Oui.
Par rapport à d'autres expériences ailleurs ?
Là, je ne saurais pas me prononcer. D'accord. En tout cas, vis-à-vis de mon expérience à Bruxelles, de notre expérience, ça s'est vraiment toujours bien passé.
Ok. Et alors, par rapport à cette espèce de semi-blague que je mettais dans l'introduction de ce « Merci les bénévoles !» et on... Il y a un peu un « oui, bravo, bravo », mais personne ne sait exactement à qui on fait référence, en tout cas la plupart du temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... j'imagine que vous l'avez déjà vécu. Est-ce que c'est quand même une différence pour vous quand on cite vos noms, qu'on cite vos postes, etc. Ou est-ce qu'en fait, c'est OK pour vous qu'il y ait juste cette espèce de merci général et que... Ou même, parce que j'ai même déjà vu des shows où il n'y avait limite pas merci aux bénévoles à la fin.
Ouais, parfois, il n'y en a pas. Ouais.
Personnellement, je trouve ça toujours un peu compliqué, tant dans le public qu'en tant que performeuse. Ouais, mais...
De mon côté, je suis évidemment toujours content quand on cite le travail de régie, en tout cas. Que ce soit par mon prénom, pour moi, ce n'est pas une obligation. Je pense que je suis reconnu à partir du moment où on se souvient de moi. Je pense que c'est important, effectivement, de le dire. Hein,
de dire merci la régie, merci les bénévoles.
Toujours remercier les techniciens et techniciennes, petites mains et tout. Je crois qu'on ne m'a jamais cité.
Okay.
Genre nommément dans les remerciements. Après, je n'ai aucune envie particulière qu'on le fasse. Je suis là pour aider, pas pour la fame. Après, généralement, comme je fais les entrées, les gens m'ont vu et les gens savent très bien. Et parfois, il y a des gens du public en sortant, ils sont là, merci beaucoup. Et donc, moi, j'ai pas besoin de reconnaissance plus que ça, quoi.
Ouais. Donc quand même qu'on dise... À un moment qu'on dise un merci aux bénévoles pour reconnaître le travail qui a été fait.
Oui, après, que ce soit dit sur scène ou dit en privé sur le groupe Insta, pour moi, ça ne fait aucune différence, quoi. Okay. Mais c'est toujours bien de, de remercier tout le monde.
Ouais.
Remerciement.
Ça mérite des applaudissements, en tout cas, en fin de show, je trouve, vu le travail fourni.
En plus, je trouve que ça casse cette espèce... Parce que parfois, en tant que public, on ne se rend pas compte, on se dit un peu juste, bah oui, ça s'est fait. Et je trouve que c'est quand même une manière de dire, bah en fait, rendez-vous compte qu'il y a eu du travail bénévole qui a permis à ce spectacle de se faire. Nous allons en reparler un petit peu plus tard, mais d'abord, je voulais faire, comme d'habitude, un petit détour par vos trajets personnels. Qu'est-ce qui vous a amené un jour à faire du bénévolat, à sauter le pas ?
Moi, j'ai une mémoire dégueulasse, donc je ne me souviens plus exactement c'était quoi le premier truc de bénévolat que j'ai fait. Mais une fois que j'ai commencé, j'en ai fait très vite plusieurs d'affilée, et donc ça s'embrouille un peu. Mais
c'était à quel moment à peu près ? C'était quand tu étais aux études ou...
J'étais aux études, c'était il y a à peu près un an, je pense, un peu plus.
Et parce que du coup, des gens que tu connaissais avaient besoin
de bénévoles ?
C'était
des gens que je connaissais. Je crois que c'était pour un Trocart, qui est un festival où on troque de l'art organisé par Blé Noir.
Oui, ouais, on en a parlé pendant l'épisode avec Pardon My Freak.
Mais voilà.
C'était l'édition où Pardon My Freak avait performé.
Oui.
Ah ouais.
Et donc, moi, j'étais là, j'aime beaucoup son travail. Et Mathieu m'a tatoué, et donc je le connaissais. J'étais là, moi, je suis dispo, viens, on va tester, quoi. J'avais mon week-end de libre. J'étais là, allons-y. Et en fait, c'était chouette, et j'y ai pris goût, mais très, très vite. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, moi, quand je suis tombée dans le milieu du drag, je voulais plus en ressortir. Et je commençais à me rendre compte que c'est quand même un milieu vachement précaire et qu'ils ont besoin de bénévoles. Et donc, moi, je suis là, si je peux aider, je vais aider. Et j'ai plus envie d'en sortir. Voilà.
Trop bien. De ton côté, Martin ?
Mais écoute, c'est marrant, on a eu plus ou moins le même parcours. Parce que le trocard, c'était la première fois
le début de tout le monde.
Voilà.
Waouh !
Vu que je suis Pardon My Freak depuis longtemps, vu que je relationne avec Atlas depuis de longues années maintenant. et je l'ai vu performer là-bas. Et Pardon My Freak m'a ensuite demandé, en organisant leur premier show vraiment à LE, de tenir le poste de régisseur, en fait. Parce que Atlas leur avait expliqué que je venais du spectacle avant. Et ce show du Trocard m'a fait me rendre compte qu'en fait, j'avais les capacités de pouvoir gérer ça. Et c'était sans stress. C'était un grand oui directement, en fait. Okay. Ça m'a semblé très logique.
Parce que quand même, le travail de régie d'un spectacle drag... T'avais vu beaucoup de spectacles drag avant de faire la régie de ce spectacle ?
Oui. Alors moi, je viens de... Malheureusement, entre guillemets, de Drag Race.
Donc, c'est pas un mal, hein, c'est arrivé au meilleur d'entre nous.
Mais quand on découvre le drag local, après, tout prend son sens. Enfin, c'est vraiment comme ça que je réfléchis maintenant. Mais du coup, j'ai été voir énormément de shows drag, des queens de Drag Race. Mais voilà, très américanisé, dans les grandes salles. Il n'y avait pas ce côté de proximité que je retrouve maintenant et que j'adore dans les shows drag à Bruxelles. Et donc j'ai pas réfléchi comme ça en voyant ces choses, j'ai pas eu un déclic. C'est vraiment en voyant l'organisation do it yourself, on va dire, qui existe ici que je me suis rendu compte que je pouvais reprendre ce travail.
Ok.
Je pense que, toi comme moi, on fait souvent, surtout des trucs de la scène alternative, quoi.
Ouais,
pas absolument. Tant de drag queen cabaret, trucs un peu populaires entre guillemets. Mais les scènes freaks, monstres.
On aime bien les freaks. King,
on est un peu alternatif.
Dans les caves, dans les squats, dans les.
C'est ça, des endroits où il n'y a pas de chasse d'eau.
On doit remplir des bouteilles d'eau à l'arrivée.
Oui, ou l'abricot magique. Je connais le speech par cœur, je l'ai donné plein de fois.
Yes. Et donc, cette première. Parce que c'est quand même de la responsabilité en termes de timing pour lancer les tops et tout ça, ça s'est très bien passé tout de suite.
Ça s'est très bien passé. Le show du Trocard m'a bien drillé aussi à ce niveau-là, donc j'ai bien vu comment ça se déroulait. Mm-hmm. Et puis après, il tenait qu'à moi d'essayer de rendre la chose la plus professionnelle possible et de faire un travail qui me rendait heureux et duquel je serais satisfait, quoi.
C'est ça. Et donc, en tant que régisseur, quand même, tu as eu une répète, c'est ça, le jour même sur place avec les...
Il y a une répète le jour même, j'avoue être venu le plus tôt possible, histoire d'être le plus à l'aise possible. oui, parce qu'effectivement, installer le son, réinstaller les lumières, reprendre un petit peu contact avec le matériel, ce que j'avais plus fait depuis très longtemps, c'était quelque chose d'important. Et puis ensuite, le contact avec les artistes, savoir exactement quand lancer la musique. Pour moi, ça, c'est vraiment le plus important, parce que les petits silences de 5-10 secondes avant le début d'une performance... Ça me met toujours un petit peu mal à l'aise.
Quand c'est la mauvaise musique qui se lance,
oui,
et il faut recommencer.
Oui, absolument.
Et la magie est un petit peu abîmée.
Oui, exactement. Donc ça, c'est ce que je voulais vraiment éviter. Mm-hmm. Ouais.
Super. C'est quoi votre pire et votre meilleure expérience en tant que bénévole sur des shows drag?
Alors j'ai la pire, je réfléchis encore pour la meilleure.
Ah, bah commençons par la pire alors.
Bon, le show s'est très bien déroulé heureusement, mais c'était au niveau du stress pour le magnifique show qu'il y a eu pour Baxter au Barrio. Je me suis occupé de la régie et vu que c'est un club, c'est pas un endroit du tout fait pour des performances drag, donc rien n'est mis en place pour que ce genre de performance soit, enfin, y passe tout simplement. Et j'ai dû réapprendre à utiliser un matériel assez compliqué très rapidement, ce que j'ai pas réussi à faire directement. Donc ça, c'était une grosse montée de stress. Heureusement, tout s'est bien passé à la fin, okay. Tout s'est bien déroulé.
Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as pu dire ton stress à quelqu'un et avoir de l'aide, ou est-ce qu'on t'a laissé...
Ouais, j'en ai parlé, on m'a proposé de l'aide directement. Malheureusement, le jour du show, la personne, le technicien professionnel qui devait venir m'aider n'a pas su se déplacer. Donc, voilà, comme je te l'ai dit, j'ai l'habitude de venir tôt pour être à l'aise, ce que j'ai fait. Et j'ai passé mon après-midi à essayer de comprendre comment tout fonctionnait et on était prêts vraiment... pile au bon moment, heureusement. Okay. Mais voilà, c'était une grosse situation de stress et encore une fois, tout s'est bien déroulé, c'était un super show.
Et ton meilleur ?
Mon meilleur.
Est-ce que ça a été la joie de voir que ça se passait bien après tout ce stress, ou c'était une autre fois ?
j'ai vécu beaucoup de bonheur dans cette situation. mais le meilleur, je pense que c'est vraiment d'avoir fait le premier show de Pardon My Freak. Vraiment, mon retour au spectacle, vraiment, c'était un bonheur indescriptible. Le bon déroulement de la soirée, découvrir des artistes vraiment super. C'était, ouais, voilà, c'est un souvenir que je garderai en tout cas très longtemps.
Super. Et de ton côté, Juliette ?
Je crois que j'ai pas de pire expérience, parce que j'ai pas de mauvaise expérience. Enfin, toutes mes expériences de bénévole étaient bien de leur propre manière. Mais je dirais aussi mon meilleur souvenir, en tout cas, c'était le premier show de Pardon My Freak. Simplement parce que c'était le premier show d'un collectif que j'aimais beaucoup, qui regroupait des personnes, dont une certaine que j'aime énormément. Et donc, c'était émotionnellement fort de pouvoir aider à ce moment-là, d'être là pour elle.
Tu nous disais, au moment où on parlait de comment ça se passait chronologiquement, on va dire, le recrutement des bénévoles, que dans le meilleur des cas, ou quand l'organisation était bien faite, il y avait la création d'un groupe de bénévoles. Et tout a quand même vécu des organisations un peu moins bien rodées que ça.
Oui, en fait, ça dépend. Parfois, il y a vraiment l'organisation qui est en mode genre, bon voilà, on a fait des documents, on a fait des chartes, on a fait des descriptifs de postes, on vous explique, on vous brief. Et parfois, c'est beaucoup plus organisé. Après, moi, ça me dérange absolument pas que ce soit un peu du freestyle, quoi.
Ok.
Enfin, moi, je le vis, que ce soit organisé ou pas, je fais mon taf de la même façon. Et voilà.
Ok, trop bien. Et de ton côté, Martin, est-ce que le fait de faire du bénévolat, ça a changé ton regard sur les bénévoles ?
Oui, on va dire que j'avais déjà une vision très, très affectueuse des bénévoles avant, vu que quand j'ai commencé à travailler dans la scène, je faisais partie de, encore une fois, entre guillemets, la petite main. Je sais ce que c'est de travailler énormément, d'être très peu vu au final, et de devoir rester dans l'ombre. Donc voilà. Oui, mon amour pour Elon n'a fait que grandir depuis.
Depuis que toi-même, tu es aussi à cette place,
ouais, exactement,
de temps en temps.
Exactement, j'ai énormément de respect. Mm-hmm.
Et de ton côté, Juliette, est-ce que du coup, en tant que spectatrice, ou je ne sais pas si dans les milieux de la radio, etc., il y a du bénévolat qui est utilisé ou pas du tout ?
Bah, oui.
Oui.
Enfin, toutes les radios associatives, généralement, c'est bénévole. Voilà. Après, enfin, moi, ça a surtout changé mon regard sur le drag en tant que tel. Parce que de voir les coulisses, je me suis rendu compte de l'énormité du travail que c'était. Parce que ces performeuses sont là hyper tôt. Et elles répètent, elles font créent leur numéro, leur tenue, leur maquillage. Et en fait, c'est un travail de dingue. Et même si on sait, avec Drag Race qui est devenu hyper célèbre, on sait que ça prend des heures de se maquiller. Mais de le voir, d'arriver au moment où elles sont déjà en train de se maquiller et ça prend encore des heures. Et en plus, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis, c'est un taf de création et d'organisation absolument monstre. Et ça m'a vraiment genre ouvert les yeux là-dessus. Et j'ai vraiment une admiration toute renouvelée pour ces artistes. Et même si c'est entre guillemets du DIY très fait maison avec ce qu'on peut, c'est quand même putain d'impressionnant, quoi. C'est assez fou. Et maintenant, systématiquement, quand je viens en tant que performeuse et même quand je suis bénévole, mais je donne de la thune, en fait. Et j'ai une manière de consommer, c'est pas le bon mot, mais de consommer du drag complètement différente. Et maintenant, c'est un budget, quoi. Genre, vraiment, j'ai une petite tirelire chez moi. À chaque fois que j'ai du cash, je mets dedans, ce sera pour les chapeaux. Et je ne vais jamais à un show si j'ai pas le budget à mettre dedans, quoi.
Ok.
Et bon, ça ne va pas éradiquer la précarité du milieu, hein, clairement. je ne roule pas sur l'or, mais...
Oui, c'est ça, parce qu'après, ces chapeaux sont aussi là... Bon, après, on dévie du sujet, mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que les chapeaux sont aussi là pour que des personnes qui ne roulent pas sur l'or puissent aller voir des shows.
Oui,
et que des... Moi, j'ai le sentiment que la sensibilisation est plus à faire du côté des personnes qui ont un salaire de 2000, 2500, 3000 euros par mois,
oui,
et
clairement,
qui n'ont pas le réflexe de mettre plus que 5 balles.
Je sais pas, dans toute cette rhétorique de prix libre, donner ce que vous pouvez, moi, quand j'étais avant d'être bénévole, je donnais ce que je pouvais. Et je ne donnais pas ce que ça valait. Et maintenant, ça a changé dans le sens où je ne roule toujours pas sur l'or, mais je gère mon argent mieux et je vais préférer mettre plus d'argent dans un show que je vais aller voir plutôt que de payer des verres à mes potes ou d'aller en fripe.
Donc si je comprends bien, avant, c'était un petit peu ce que tu avais sur le moment, ce qui te restait entre guillemets comme budget pour le mois, et maintenant c'est vraiment une case du budget.
C'était une part différente de mon budget, et maintenant je vais beaucoup plus là, parce que ça les vaut en fait. Et même, ce que je donne est bien inférieur à ce que ça devrait valoir en général, mais en fait juste je ne peux pas aller à un show et ne pas rémunérer les artistes. C'est juste, ça ne le fait pas dans ma tête, quoi. Même si c'est des potes, même si je suis bénévole, donnez-leur votre argent, voilà.
Alors, je ne peux que seconder ce discours. Merci à toi. Mais de ton côté, Martin, est-ce que ton rapport au drag a changé depuis? Est-ce que tu disais que tu avais beaucoup été voir un peu des shows à l'américaine, à la Drag Race, etc. Est-ce que tu as découvert le drag un peu plus DIY, un peu plus alternatif, avec Pardon My Freak et en étant régisseur? Ou est-ce que tu as été aussi spectateur de spectacles comme ça?
Écoute, j'avoue être passé de Drag Race à Dragula à un moment aussi. Voilà. Donc on est toujours dans le show à l'américaine. Mais...
l'influence d'Atlas. Mais oui, très bien.
mais effectivement, c'était l'occasion de découvrir autre chose. Tu parlais d'Atlas, ça l'a fortement influencé. Et suite à ça, il a décidé d'aller prendre des cours chez Blanquette, dont tu as parlé aussi dans le podcast avec Pardon My Freak. Et en découvrant Blanquette, on a commencé par...
Aller voir des shows.
Voilà, Blanquette est un petit peu la Drag Race de Bruxelles, les références. pour les personnes.
Je vais lui poser la question de qu'est-ce qu'elle en pense de cette référence.
Elle en prend beaucoup dans ton show, je suis désolé. Désolé, Blanquette. Mais voilà, non, c'est vrai que c'est une figure qu'on retrouve dans beaucoup de shows drag, qui prend, et à juste titre, beaucoup de place et qui la mérite. Oui, c'est via Blanquette que j'ai réussi à découvrir d'autres artistes drag.
Et du coup, est-ce que toi aussi, comme Juliette, le fait de t'investir en tant que régisseur et ou en tant que bénévole dans des shows drag, est-ce que ça a changé ton regard aussi sur le drag, sur ce qu'il faisait, sur ton rapport en tant que spectateur à la scène?
Oui, bien sûr, évidemment. C'est toujours... toujours tellement intéressant de découvrir les coulisses, de voir le temps de préparation. C'est un peu bateau comme discours ce que je vous dis maintenant, mais oui, tout le travail derrière, c'est remarquable en fait. Et, Et si tout le monde faisait comme toi, Juliette, je pense que le milieu ne s'en porterait pas plus mal.
Voilà. Waouh.
Eh ben,
exactement.
Un modèle de donneuse de thunes ici.
La moulaille accepterait. Mais donc plus concrètement, et pour terminer ce bel entretien, vous décidez donc de donner de votre temps et votre énergie pour des shows, et c'est vraiment super. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, tiens, quid de la formation, quid du côté des personnes qui voudraient organiser des shows. Qu'est-ce que ça représente? Alors, tu parlais, Juliette, de certains shows où il y a carrément des descriptifs de fonctions, etc. Si, par exemple, moi, demain, je veux organiser un show pour Freaks et Merveilles et que je veux recruter des bénévoles, c'est quoi les conseils que vous me donneriez pour que ça se passe bien dans le rapport aux bénévoles?
Bonne question. Moi, je n'ai jamais été dans l'organisation à proprement parler, donc je ne sais pas trop. Mais oui, les descriptifs, c'est toujours très utile. En fait, vraiment communiquer, quoi.
Okay.
On revient toujours à ce même conseil, mais oui, communiquer, bien expliquer ce qu'on doit faire, comment on doit faire. Voir les. Enfin, juste pour pas tomber sur une mauvaise expérience, quoi.
Ouais.
Exactement.
J'ai pas trop de conseils.
Ouais. C'est vrai que pour une première fois, je pense que c'est impossible que ça se passe sans accroc. Il y aura toujours. Enfin, pas des accrocs graves, bien sûr. Mais je pense que c'est. Tu parlais des retours tout à l'heure, des feedbacks que les bénévoles peuvent donner. C'est vraiment pour moi le point le plus important. Pas oublier qu'on est des êtres humains, en tant qu'organisateur en tout cas. Et que évidemment il y a toujours une envie de bienveillance et que tout se passe le mieux possible, mais au niveau de l'organisation c'est très facile de passer à côté d'une petite info, vraiment un petit quelque chose qui pourrait mettre les gens plus à l'aise.
Ouais, avec le stress qui monte du côté de l'organe.
Ouais, exactement. Mais effectivement la communication, point numéro un, de la part de l'organisation et de la part des bénévoles. Très important que les bénévoles. Je me suis retrouvé face à des cas où on a eu des feedbacks, mais très longtemps après. Et c'est juste dommage de ne pas avoir eu l'occasion de régler un certain souci directement. Donc je pense que si vous voulez faire du bénévolat, le jour où vous le faites, soyez vocaux, vocales, en fait, à ce niveau-là. C'est vraiment super important et ce sera jamais mal pris. En tout cas, les personnes avec qui j'ai travaillé ont toujours pris ça avec bienveillance. Donc, il ne faut pas avoir peur de le faire.
Ok. Et moi, je vois souvent que les organisatrices de shows sont aussi performeuses et ou MC des shows organisés. Est-ce que ça amène aussi des difficultés le jour J de tout à coup se couper de la team bénévole parce que, en fait, je dois aller faire mon make-up et je dois me préparer? Ou est-ce qu'en général, les canaux de communication, justement, restent ouverts?
J'ai l'impression que en fait, quand il y a un show ou un gros event comme ça, 10 minutes du début, c'est toujours un peu la folie. Tout le monde court un peu partout, en mode « Ah, il reste ça à faire ah. !» Et donc, c'est toujours un peu un joyeux chaos organisé. Et c'est là où, on en a parlé en début d'émission, t'as pas juste ton rôle, tu fais ce qu'il y a à faire, quoi. Moi, je fais souvent les entrées. Un jour, on m'a demandé d'aller faire des courses pour des serviettes hygiéniques et pour Atlas, une tomate cœur de bœuf à bouffer sur scène. J'ai été au supermarché peloter les tomates cœur de bœuf pour voir laquelle était la plus
mûre,
explosable. Voilà, et enfin, oui, tu te bouges, quoi. Et donc,
C'est ça le conseil que vous donneriez aussi à des personnes qui hésiteraient à devenir bénévoles? D'une part, pas hésiter à communiquer leurs besoins, et d'autre part, pas rester juste cantonné au poste qui leur a été assigné, mais...
Après, elles peuvent, si elles se sentent juste... parce qu'il y a aussi tout le monde n'a pas le même niveau d'énergie ou les mêmes capacités d'énergie, en fait. Donc, si tu fais ton taf d'entrée, par exemple, et que tu n'as pas l'énergie de faire autre chose, reste à l'entrée, quoi, et on verra bien. Et ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, qu'il y ait genre un bénévole qui se sente mal, qui était un peu malade, et qui a dû rentrer, on s'est arrangé pour répartir les bénévoles. On n'est pas sous contrat, il n'y a pas de couteau sous la gorge. Si t'es pas bien, tu rentres, quoi. C'est pas grave, si tu peux arrêter, si tu veux arrêter, tu arrêtes.
Bien sûr. Et je pense que c'est important de savoir aussi pourquoi tu veux être bénévole quand tu le fais.
Oui.
C'est tout à fait OK d'avoir envie de le faire pour apprécier le show, de le faire pour aider. Enfin, y a mille raisons, mais je pense que c'est important de de les communiquer en fait en amont, parce qu'effectivement si tu veux voir le show et que tu te retrouves au bar qui est de l'autre côté de la salle, ça, voilà, il faut le savoir, tu verras pas grand chose.
Oui, c'est vrai, ça c'est un truc à savoir, ouais. Que c'est, tu es bénévole mais tu ne vas pas profiter du show comme si tu étais spectatrice, quoi. Parce que tu as des trucs à faire, et quand tu fais l'entrée par exemple, souvent si ça ne ferme pas, tu dois faire la porte, quoi. Et donc tu tiens la porte, et moi je fais 1m57, je ne vois pas au-dessus d'un public, donc voilà, quand je tiens la porte je ne vois pas le show, et voilà, donc c'est pas tu aides et tu profites, quoi. C'est tu aides tout le long du show.
Et si c'est possible de profiter
parfois c'est possible, hein, ouais. Parfois je me suis déjà quand tu es bénévole et que tu n'as rien à faire pendant le show, on te propose même une petite place VIP à l'avant. Incroyable. Ça, c'est très chouette. Et puis, parfois, tu tiens la porte. Voilà. Quand il faut, il faut.
Super. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire de votre côté avant de clôturer ce bel entretien ? Des frustrations, des points à aborder ?
Rémunérer les performeuses. 2. N'hésitez pas à être bénévole et à aider ces merveilleuses communautés et collectifs qui galèrent. Voilà, c'est tout. 3. À bas l'hétéropatriarcat. Comme ça, on a 3 beaux points.
Formidable. Quelque chose conclusion. À ajouter, Martin ou...
Écoute, je pense que beaucoup a été dit, mais oui, n'ayez pas peur de prendre contact avec des organisations si c'est quelque chose qui vous intéresse, et n'ayez pas peur de communiquer vos besoins juste sautez le pas. Vous allez probablement vivre une belle expérience et découvrir plein de nouvelles choses. C'est un beau poste. Bénévole,
super.
Vraiment. Merci à toi.
Merci. Mais avant
d'en
de
parler
quitter,
et de visibiliser tout ça.
Ça a été une évidence tout de suite quand je me suis dit que cette série hors série allait sortir, parce que c'est un peu les personnes dont on ne parle jamais, je trouve, les bénévoles qui sont toujours un peu l'espèce
les
de
personnes de l'ombre.
C'est ça, de brouillard qui entoure le show et qui pourtant le rend possible, parce que sans vous tout s'écroulerait. Donc merci à vous. Mais avant de vous laisser filer, j'ai 3 petites questions rituelles à vous poser, parce que j'ai adapté les questions rituelles pour ce hors série. Alors d'abord, est-ce que le drag va changer le monde ?
Le drag change déjà le monde, non ?
Oui. Enfin, j'ai envie de dire, il a changé mon monde.
Oh,
donc
c'est beau.
Ça, tout commence par là.
Très bien. Ouais. Et non, pour toi, Martin, il a déjà changé le monde ?
Mais comme Juliette, il a changé mon monde. J'ai ouvert les yeux sur énormément de choses. J'ai été éduqué sur énormément de choses. J'ai encore plein de choses à apprendre. Et je pense pas être la seule personne dans le cas, donc voilà, ouais, ça change le monde définitivement.
Trop bien. Et toi aussi, Juliette, c'est en te sensibilisant, comme dit Martin, à des sujets ou en t'apprenant certaines choses que ça a changé ton monde, ou qu'est-ce qui a changé ?
Ça a changé mes habitudes de vie, quelque part. Quand je sors voir un show, je sais pas. C'est des nouvelles habitudes et je m'y plais énormément. Ouais, voilà.
Super. Alors, si vous pouviez vous inventer un persona drag de 0, ce serait qui ? Ce serait quoi ?
Alors, il faut savoir, moi, j'ai déjà une petite persona militante, si on peut dire ça comme ça. Non, c'est pas vraiment une persona, c'est un petit jeu de mots. Juchèvre.
D'accord.
C'est comme ça qu'on m'appelle dans le milieu. Ouais. C'est mon animal favori.
Et est-ce que ce serait du coup mettre du chèvre sur scène en drague ?
Ce serait sûrement un truc un peu sataniste, ouais.
J'adore. Très bien. Très bien. Une amie de Saint-Acab, donc.
Ouais, genre un peu Hécaté version Satan. Ouais, pourquoi pas, ouais.
Ok.
Petit Hécaté non binaire. Ouais.
Ok, parfait.
Écoute, de mon côté, j'y ai jamais trop pensé. Mes amoureux, Gigot et Atlas, ont déjà quelques idées pour moi, dont un nom de scène assez particulier, que je ne garderai pas, mais ça les fera rire quand ils entendront ça. Ils veulent que je m'appelle Coco Banana.
Pardon.
Et j'ai déjà performé en appartement sur du Philippe Catherine.
Ah oui, je vois le lien entre Coco Banana.
Exactement.
Et Philippe Catherine, effectivement.
Voilà. pour le reste,
d'accord.
Je.
Et Coco Banana est plutôt king, freak.
Je pense que ce sera plutôt freak. Ouais. Je n'ai pas encore de visuel. Encore une fois, le nom ne va pas être gardé. C'est très important. Je tiens à le dire. C'est juste parce que je l'ai jamais vraiment réfléchi. Mais oui, je pense que l'univers du fric restera toujours mon univers de cœur, en tout cas dans le drag.
D'accord. Ce qui nous amène à la troisième et dernière question rituelle du jour. Plutôt freak ou plutôt merveille, vous deux ?
Freak. Direct.
Ouais, freak. Ouais.
Formidable. Eh bien, merci beaucoup d'être passé. C'était très, très intéressant. Merci de m'avoir aidé à mettre un peu le projecteur sur les personnes qui font tellement, mais dont on parle si peu dans le milieu du drag. Merci beaucoup à vous. Et puis, à très bientôt.
À bientôt.
Merci à toi, Croc.
Avec plaisir.
Vous venez d'écouter Freaks et Merveilles et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoiles et commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à eux.